Vous écoutez RTL.
Histoire complètement hallucinante de Zeynab, 23 ans.
RTL.
Les photos sont incroyables. Celle notamment où la jeune femme est au stade, au milieu des supporters, avec sa barbe, ses cheveux courts et son écharpe autour du cou.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Franchement, on la prendrait pour un homme, hein, sauf que Zeynab est bien une femme, une Iranienne, et qui pour vivre sa passion, le foot, n'a d'autre choix que de se travestir là-bas depuis la révolution islamique.
La curiosité est un vilain défaut.
Des femmes qui se travestissent pour vivre leur vie. C'était le thème de la revue de presse d'Amandine Bégaud dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL. Bonjour Virginie Giraud.
Bonjour.
Bonjour,
vous
bienvenue.
Vous êtes historienne, merci. Bienvenue à vous, spécialiste du droit des femmes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Des femmes, on en parle tous les jours dans la curiosité. Donc c'est normal d'en parler aussi aujourd'hui. Le droit des femmes, c'est aussi le droit d'être une femme. Et pour ça, parfois, il faut devenir un homme. Ça paraît complètement fou. Vous signez des portraits passionnants dans le magazine Historia de mars en partenariat avec RTL. On va commencer tout de suite avec un premier portrait. On est le 25 juillet 1865 à Londres et un éminent médecin est mort. Qui est James Barry ?
James Barry est un grand chirurgien anglais qui a fait toute sa carrière chez les militaires, donc quelque chose de très masculin, de très viril. Et effectivement, à cette date, il est décédé et le médecin qui s'est occupé de lui a appelé Sophia Bishop, qui fait la toilette des morts à ce moment-là, et lui demande de le préparer pour la mise en bière. Alors Sophia fait son travail, comme d'habitude, elle déshabille le mort, et là, elle se rend compte que James Barry n'est pas un homme, mais une femme.
Donc elle voit son sexe de femme déjà, mais pas que.
Et non, donc il faut imaginer la scène. Sophia sort de la chambre mortuaire folle furieuse. Elle va voir le docteur McKinnon, qui l'a appelé pour faire la toilette du mort. Et elle lui dit, mais quel genre de médecin vous êtes, puisque vous n'êtes même pas capable de voir qu'il s'agit d'une femme et pas d'un homme. Donc elle est furax et elle lui dit, et en plus, c'est pire qu'une femme, c'est une mère, puisque Sophia Bishop a remarqué que sur le ventre de James Barry, il y avait les vergetures caractéristiques d'une grossesse.
Donc double révélation. Est-ce que ça, si on en parle aujourd'hui, j'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que ça sort dans la presse ? Est-ce que c'est révélé médiatiquement dans la foulée de cette première découverte?
Eh bien, la presse anglaise est connue pour aimer les ragots, c'était déjà le cas au 19e siècle. Et donc, du coup, Sophia Bishop dit, si vous ne me donnez pas d'argent, je vais tout révéler à la presse. Et le docteur McKinnon, qui connaissait James Barry depuis des années, qui était un ami intime et qui connaissait la vérité, lui dit, maintenant qu'elle est morte, il n'y a plus de secret, allez-y, elle va tout raconter à la presse. Et là, l'armée, par contre, va être très embêtée et va mettre sous scellé l'intégralité des documents signés par James Barry.
Oui, parce que, alors, on rappelle que c'est un éminent chirurgien de l'armée anglaise. C'est pas un inconnu ou une inconnue en l'occurrence dont on parle. Ça fait scandale forcément ?
Ah oui, ça fait scandale puisque l'armée n'est pas ouverte aux femmes à ce moment-là et la médecine non plus. Donc c'est un double scandale.
Double alors, interdit qui a été transgressé.
Et pour les Anglais et les Sud-Africains, parce qu'elle a travaillé en Afrique du Sud aussi, James Barry, que représente ce docteur ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? Qu'est-ce qu'elle a apporté à la médecine ?
Alors James Barry était un précurseur de tout ce qui est relatif à l'hygiène et à l'asepsie. Elle avait très bien compris que pour sauver les malades, pour les aider à se rétablir plus vite, il fallait d'une part une hygiène redoutable, il fallait des bons soins, de la nourriture, de l'air, du repos. Et puis, dans le cas de la chirurgie, puisqu'elle était chirurgienne, il fallait surtout avoir une asepsie totale pour éviter les infections.
Et est-ce que donc cette femme qui se travestit en homme pour pouvoir devenir médecin a eu un exercice de son art, de la médecine, tourné vers les femmes aussi ? Est-ce qu'il y a des découvertes liées peut-être à sa condition féminine ?
Alors ce qui est fantastique avec James Barry, et peut-être parce qu'elle était une femme, elle va soigner tout le monde, quel que soit le sexe ou la couleur de la peau. Donc, il faut bien s'imaginer qu'on est au 19e siècle, dans un monde qui est encore colonialiste, assez raciste. Elle s'en fiche, un noir, un blanc, un prisonnier, un homme libre, c'est la même chose. Mais surtout, elle va pratiquer la première césarienne réussie sans tuer la mère au Cap, donc dans les colonies anglaises.
Comment Margaret, parce que c'est le prénom de cette femme qui est devenue un homme, qui est devenue James Barry, ce chirurgien, comment elle décide de devenir un homme ? C'est quoi son histoire ?
Eh bien, elle appartient à une petite famille de commerçants. Donc le père meurt quand elle est petite. Sa mère, Madame Bulkley, va vivre auprès de son grand frère qui s'appelle James Barry et qui est un grand peintre de la fin du 18e siècle. Il enseigne à l'académie et comme il fait l'apologie de la Révolution française, il se fait virer. C'est un homme qui a beaucoup de caractère. Et donc, notre petite Margaret voit cet oncle avec beaucoup d'admiration et lorsqu'il va mourir et qu'elle se retrouve un peu sans le sou puisque c'était son protecteur, elle va décider, plutôt que de se marier pour subvenir à ses besoins, d'avoir une carrière et en hommage à son oncle, elle va prendre le nom de James Barry.
Personne ne va la démasquer pendant ses études de médecine ?
Eh bien, étonnamment, non. C'est quelqu'un de très discret, c'est un rat de bibliothèque, elle travaille en permanence, elle a un physique assez gracile en plus, donc elle est très discrète, mais elle excelle en tout, finalement, ça ne se voit pas.
Est-ce que Margaret, alias James Berry, va vivre une histoire d'amour avec un homme, avec une femme ? Est-ce qu'elle peut se le permettre ?
Eh bien, c'est très secret ce qui s'est passé, donc on peut se questionner justement sur ces fameuses vergetures. Eh bien, lorsqu'elle travaille au Cap, elle rencontre Lord Somerset, qui est alors le gouverneur de l'Afrique du Sud pour l'Angleterre. Ils vont se lier d'amitié, ils vont réfléchir ensemble à comment améliorer le réseau hydraulique de la ville pour que les gens soient en meilleure santé, hein, c'est vraiment une préoccupation chez elle. Et on se met à raconter que ces deux personnes, brillantes au demeurant, ont une relation homosexuelle. En réalité, c'est un homme et une femme.
Une belle histoire d'amour.
Sur l'amour, pleine de secrets.
Et voilà, exactement. Devenir un homme pour vivre sa vie de femme, c'est quand même un paradoxe, mais c'est une façon géniale de réaliser son destin, ses rêves. Ça dépend des pays, des époques, bien sûr. Comme ces deux pirates dont on va raconter l'histoire, Mary Read et Anne Bonny. À tout de suite, les curieux sur RTL.
Les corrections, faut faire attention comme un garçon.
14h-15h.
Si le jour, je ne contemple pas Sylvia, il n'est de jour qui vaille d'être contemplé.
RTL.
Elle est mon essence. Et je cesse d'être si
bas. Enlève ton chapeau.
Mon chapeau ?
Où as-tu appris cela ?
J'ai...
Je veux te voir, enlève ton chapeau.
Êtes-vous Maître Shakespeare ?
Reste là. Reste là.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je suis un homme de Cro-Magnon.
Zazie qui nous chante « Je suis un homme », mais aussi « Shakespeare in Love », où le personnage interprété par Gwyneth Paltrow doit se déguiser en homme pour jouer au théâtre. Vous l'avez compris, on raconte le destin de ces femmes qui ont dû se travestir pour exercer un métier, vivre une passion. Et c'est l'historienne Virginie Giraud qui nous raconte ces destins. Et c'est en partenariat avec le magazine Historia, partenariat RTL. Alors, voilà l'histoire de deux femmes pirates. Femmes et pirates au XVIIIe siècle. J'ai envie de dire mission impossible pour commencer.
Exactement, c'était une mission impossible, mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors la première, c'est Anne Bonny. C'est une jeune fille de bonne famille des États-Unis, mais qui a un père un peu aventurier. Il quitte sa femme, il emmène Anne avec lui et il lui donne une éducation de garçon. Et cette jeune fille, qui a un fort caractère, se met à traîner du côté des tavernes de pirates en Caroline du Sud. Et là, elle rencontre beaucoup de pirates qui sont fascinés par sa beauté, par son intelligence, son caractère. Et elle devient l'égérie des pirates des Caraïbes.
Mmh, et donc l'égérie, ça veut dire que c'est juste une muse ou elle va devenir pirate elle aussi ?
Eh bien, elle va devenir pirate en épousant un pirate elle-même. Ouais. Donc, James Bonny, qui va effectivement lui donner son nom.
D'accord.
Et à partir de là, elle va s'engager sur les bateaux. Alors on raconte, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'elle se balade sur les ponts des bateaux, les seins nus, seulement vêtue d'un pantalon avec une épée à la main, c'est un peu la fémène de l'époque.
Ouais, il y a aussi une autre femme pirate à la même époque qui s'appelle Mary Read, c'est ça ? Elles se sont connues, elles se sont rencontrées toutes les deux ?
Et oui, elles se sont connues, elles sont même devenues très amies. Alors Mary, c'est un autre destin, elle vient d'Angleterre, d'une famille de marins, et bien comme sa famille est pauvre et que son père est mort en mer, elle est obligée de travailler pour gagner plus d'argent, elle se déguise en homme et elle finit par se lancer dans la piraterie. Elle, en revanche, elle cache la vérité sur son sexe. Elle se fait passer pour un homme. Et lorsqu'elle rencontre Anne Bonny, qui est alors devenue la fiancée du célèbre pirate Jack Rackham, qui a inspiré
Rackham le Rouge. Bah oui.
Eh bien, elles vont se rencontrer, elles vont s'admirer l'une l'autre et devenir amies. Mais Mary Read va mettre beaucoup de temps à révéler la vérité sur son sexe puisqu'elle a beaucoup plus peur de se faire virer des bateaux finalement.
Mais est-ce qu'elles seront toutes les deux travesties ensemble à la tête de navires de pirates ?
Alors Anne, en tant que compagne de Rackham, oui, est quasiment à la tête des navires et tout le monde lui obéit et tout le monde a peur d'elle. Mary se comporte comme un pirate extrêmement violent, très caractériel. Enfin, il faut être plus fort que les hommes dans ce milieu quelque part.
Et puis un jour, Virginie Giraud, les deux femmes, les deux pirates vont être arrêtées, Mary Read et Anne Bonny. Comment ça se passe ?
Eh bien, le gouverneur de Jamaïque en a marre de voir les pirates en train de piller tous les bateaux, donc il envoie l'armée pour aller arrêter les pirates. Et il s'avère que tout l'équipage de Rackham est un peu sous, le rhum chez les pirates, c'est quand même quelque chose de court.
C'est l'eau de source pour eux.
Et oui. Alors évidemment, ils sont incapables de se battre. Donc Anne et Mary, elles se battent au corps à corps, elles tuent un certain nombre de soldats. Elles sont les dernières à se rendre. Elles sont tellement furieuses contre les pirates qu'elles les insultent, leur crachent à la figure en les traitant de femmes.
Elles se font arrêter quand même.
Elles se font arrêter
elles
quand même.
Elles seront condamnées à mort, ces deux femmes ?
Elles sont condamnées à mort, mais comme elles sont astucieuses, elles se font passer toutes les deux pour enceintes, qui est le meilleur moyen de dire, bah non, finalement, on peut pas être tué, parce qu'on ne tue pas les femmes enceintes, historiquement, d'un point de vue judiciaire.
Et donc, elles redeviennent des femmes, les femmes qu'elles sont.
Exactement.
En vérité.
Allez, on remonte quelques siècles auparavant. On est à Athènes. Et voilà une jeune femme qui rêve de faire médecine alors qu'elle n'en a pas le droit. Elle s'appelle Agnodis.
Alors Agnodis, c'est une jeune fille de bonne famille grecque, donc qui, comme toutes les jeunes filles, n'a pas du tout vocation à avoir une vie publique. Mais elle constate que dans les fameux gynécées grecques, les femmes souffrent en silence et ne font pas appel aux médecins pour être soignées parce
que... C'est quoi les gynécées grecques, vous nous le rappelez ?
Alors les gynécées, ce sont les quartiers féminins des maisons grecques. Donc en gros, les femmes n'ont pas vraiment accès à la vie publique, elles vivent... Alors c'est pas non plus le harem, hein, c'est pas du tout la même chose, mais elles vivent à la maison. Et donc comme elles sont très pudiques, que leur corps est très précieux à leurs yeux, elles n'osent pas appeler des médecins quand elles sont malades. Et donc Agnodis est très touchée par cette souffrance des femmes et du coup, encouragée par son propre père, elle va se travestir en homme, couper ses cheveux et aller écouter les cours de médecine.
Mais pour devenir gynécologue, est-ce que c'est un métier qui existe, ça, à l'époque, à Athènes ?
Et oui, c'est un métier qui existe et qui sert surtout à mettre les enfants au monde, hein, la plupart du temps. Mais les femmes se débrouillent entre elles parce qu'elles ont tellement peur de devoir
c'est
montrer
la pudeur, bien sûr,
aux hommes.
Alors, une femme qui se fait passer pour un homme pour soigner d'autres femmes, forcément... Mm-hmm. Dans la Grèce de l'Antiquité, ça fait scandale. Agnodis mérite la peine de mort. Vous allez voir comment elle y échappe, c'est assez incroyable. Restez avec nous sur RTL.
Mes enfants n'ont jamais causé de tels problèmes. Ils sont tous devenus acupuncteurs.
Mais on ne peut pas devenir tous acupuncteurs.
Non, ton arrière-petite fille a préféré se travestir.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je peux tout expliquer.
C'est donc vrai ?
Shang !
Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi. C'est une femme ! Vipère, traîtresse !
Mon nom est Mulan !
Sur RTL.
Extrait du dessin animé Mulan. Mulan qui se déguise en garçon pour intégrer l'armée chinoise et venger son père. Les femmes travesties sont au menu de notre curiosité avec l'historienne Virginie Giraud. On racontait cette histoire incroyable d'Agnodis, cette femme devenue gynécologue dans la Grèce antique à Athènes, alors que la spécialité n'existait pas vraiment et que les femmes mouraient en couche ou souffraient en silence. Et c'est sous l'apparence d'un homme qu'elle a pu soigner comme ça des centaines de femmes. Et bien sûr, ça ne va pas plaire au mal. Elle comparaît devant un tribunal, elle est arrêtée, qu'est-ce qui lui arrive ?
Eh bien, Agnodis a beaucoup de succès parce qu'elle révèle à ses patientes qu'elle est une femme, du coup il n'y a plus de pudeur en jeu et toutes les Athéniennes se précipitent chez elle. Les autres médecins, très jaloux, vont raconter qu'elle viole ses patientes et la traîne devant le tribunal pour la faire condamner. Et là, pour prouver qu'elle ne viole pas ses patientes, elle se déshabille, montre son corps de femme et révèle la supercherie. Donc du coup, effectivement, elle a transgressé les lois en exerçant un métier d'homme. On veut la condamner à mort et là, il va se mettre en place une formidable solidarité féminine. Les Athéniennes se précipitent dans la rue et disent « Si vous tuez Agnodis, nous nous suicidons avec
une
elle. »
Une manif pour Agnodis.
Alors qu'elles ne peuvent même pas sortir, ces Athéniennes, vous l'expliquez, elles vivent dans des gynécées, elles n'ont pas d'accès à la vie publique, c'est incroyable.
Exactement, il y a une véritable transgression et solidarité qui est très rare dans l'histoire.
Et donc Agnodis a pu continuer à exercer son métier jusqu'à la fin de ses jours ?
Exactement, et on a même ouvert la spécialité de la gynécologie aux femmes pour qu'elles puissent se soigner les unes les autres.
Formidable.
J'aimerais parler de votre démarche. Vous êtes historienne, Virginie Giraud, et c'est vrai qu'avec Sidonie, très souvent, on essaye de mettre en avant des destins de femmes qui ont été un peu oubliées. Pourquoi elles ont été oubliées ? Parce que ce sont des hommes qui ont écrit l'histoire le plus souvent ?
Parce que les femmes appartiennent souvent à la petite histoire, elles ont moins de place dans l'espace politique et donc de fait elles tirent les ficelles un petit peu en coulisses quand elles y arrivent ou du moins font avancer l'histoire de manière très marginale. Donc effectivement on ne leur donne pas leur place dans les manuels d'histoire, mais il faut être honnête aussi, elles n'ont pas joué les mêmes rôles. Et moi je pense que ce que nous devons apprendre à nos filles, c'est maintenant prenez votre place dans l'espace public et arrivons à l'égalité.
Mais ça veut dire que vous, historienne, vous découvrez aussi des destins de femmes qui mériteraient de figurer dans les manuels d'histoire par exemple, c'est notre première accès à l'histoire quand on est jeune. Est-ce que ça, c'est une démarche dans laquelle on est en ce moment de mettre à l'honneur les femmes ?
Ça commence timidement à arriver dans les manuels scolaires, c'est encore mal vu. Bon, je pense que le premier problème en histoire géo, c'est quand même maîtriser déjà la chronologie. Enfin bon, je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler avant.
Mais d'accord. Alors, on va parler d'un autre destin de femme qui est exemplaire, qui est passionnant et qui est raconté dans ce dossier historien en partenariat avec RTL. On est au 18e siècle, début du 18e siècle. Une jeune femme qui s'appelle Marguerite Lepestour, qui naît à Cancale le 2 août 1720. Alors, on est dans quel environnement familial ?
Eh bien, on est dans un environnement familial de la petite bourgeoisie bretonne. Donc, notre petite Marguerite a un papa aimant, mais une marâtre abominable qui la bat en permanence, qui la maltraite toute son enfance. Et devenue adolescente, elle se dit, voilà, je veux fuir cette maison, comment faire ? Elle va voler les vêtements de son frère et va s'enfuir déguisée en garçon.
Quel métier elle va découvrir, parce qu'on doit avancer dans cette histoire, elle décide de travailler ? Quel métier elle va apprendre ?
Eh bien, elle va d'abord devenir soldat, ce qui ne va pas beaucoup lui plaire. Et par chance, elle va rencontrer à Strasbourg un bourreau qui va lui proposer de la former. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de femme bourreau, ça n'existe pas.
Ah, vous vous rappelez ce que c'est le métier de bourreau à l'époque ?
Le métier de bourreau,
trancher quelques têtes, non ?
Accessoirement, mais c'est aussi briser des os, pendre des gens, enfin toute une panoplie de gestes absolument sympathiques. Ouais. Il faut avoir le cœur bien accroché pour le faire.
Elle se fait appeler comment ? Son nom de bourreau, c'est quoi ?
C'est Henri Lepestour. Ouais. Donc elle exerce en tant que garçon. Il paraît qu'elle est d'une dextérité redoutable.
Qu'est-ce qui l'anime ? Elle a la rage, c'est ça ? Henri, elle a la rage, Henri.
Effectivement, elle a raconté son histoire et elle a dit à quel point elle aimait se venger quelque part de maltraitance qu'elle avait subie étant enfant, et c'est pour ça qu'elle adorait torturer les femmes.
Mais Marguerite, qui donc devient Henri, va aussi un peu s'acoquiner avec une bande de voleurs. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'elle aime les embrouilles, je pense, ça c'est son naturel. Donc elle va tremper effectivement dans un trafic de recel. Mmh. Et qui va la dénoncer ? Eh bien c'est sa bonne, parce que sa bonne était...
Gardez ça. C'est du suspense pour dans un instant.
J'adore.
Ah oui, attention, on avait tout prévu avec
attention,
Virginie.
Attention, c'est l'heure du teaser
attention.
De Sidonie Bonnet.
Un jour, Marguerite devenue Henri va être dénoncée par un amour déçu. Et oui, c'est le risque du métier. Récite de cette folle aventure tout de suite sur RTL. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on va passionner pour quoi, Thomas ?
Eh bien, on va dompter nos fautes d'orthographe et vous raconter le quotidien d'une correctrice. Vous la connaissez bien, elle est présente, Muriel Gilbert, régulièrement sur RTL.
Sidonie Bonnet, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
Avec l'historienne Virginie Giraud, spécialiste de l'histoire des femmes, on découvre le destin de ces femmes qui se sont travesties pour réussir leur vie, échapper à la misère, à la mort parfois. Nous sommes au XVIIIe siècle et Marguerite est devenue Henri pour échapper à une belle-mère maltraitante. Elle exerce le métier de bourreau, de bad boy même, puisqu'elle s'est accoquinée avec des voleurs. Et puis un jour, elle va être dénoncée. Par qui ?
Eh bien par sa bonne, puisque sa bonne est tombée amoureuse du bourreau Henri.
Du beau Henri ?
Et oui. Et donc du coup, comme Henri la repousse en permanence, elle ne comprend pas pourquoi, déçue, elle va aller voir la police en disant « Eh bien, mon maître participe à un trafic de recel. Mmh. » La police arrive chez le bourreau Henri, trouve effectivement des preuves, mmh, et elle est jetée en prison, où là, elle va être obligée de révéler son identité, celle de Marguerite, celle d'une femme qui a trompé la justice pendant plusieurs années et exercé cette fonction de bourreau.
Est-ce que ça lui permet d'échapper à une condamnation ?
Eh bien oui. Alors déjà parce qu'elle est une femme, mais surtout elle considère qu'elle a été un excellent bourreau et qu'il n'y a aucune raison de la condamner. Elle a un aplomb formidable.
Merci beaucoup Virginie Giraud. Votre dossier, votre article est à lire dans Historia de ce mois-ci. C'est en partenariat avec RTL et ce dossier s'appelle « Pour elle, l'habit ne fait plus le moine ». À très bientôt sur l'antenne d'RTL.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.